Tournez avec moi, Hébreux chapitre 12, verset 4. On a déjà vu ensemble mais quatre verbes clés qui sont devenus quatre messages intitulés tout d'abord « Rejeter tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement »,« Courir avec persévérance dans la caractéristique ouverte », »,« Ayant les regards sur Jésus », donc « Regarder Jésus », et puis « Considérer celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs ». Et puis au verset 4, on dirait qu'on change de sujet, et il y a certainement une transition à découvrir, puisque le sujet de ce matin, c'est le châtiment de Dieu. Allez-vous pouvoir entendre cela, ce que dit la Bible au sujet du châtiment de Dieu? Et au verset 4, après avoir l'auteur aux Hébreux encourageait les Hébreux donc à rejeter, à courir, à regarder à Jésus, à considérer le témoignage, le modèle parfait de Jésus. Au verset 4, il nous introduit dans le thème du châtiment de Dieu. Et il est écrit au verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alors certainement, vous avez lu comme moi ce passage de nombreuses fois, et on va essayer de le placer dans le contexte, n'est-ce pas, d'abord de l'Épître aux Hébreux et de ce qui précède. Alors, vous rappelez tout d'abord que le but de l'Épître, c'est d'exhorter, avertir, enseigner. Il y a beaucoup d'exhortations dans l'Épître aux Hébreux, et d'avertissements, et aussi d'enseignements. Qui sont les auditeurs? Ce sont des Juifs, des Hébreux, persécutés. Il y a ceux qui ont quitté la synagogue, qui sont persécutés à cause de leur foi. Il y a ceux qui ont un pas et qui sont des indécis, des hésitants, qui ont un pas encore à la synagogue, un pas dans le christianisme ou avec les frères et sœurs à l'église, mais qui sont indécis et qui pourraient finalement abandonner ce qu'ils ont reçu sans avoir complètement reçu le Seigneur. Ils pourraient abandonner la vérité et ne pas se tourner complètement vers Jésus. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et donc les chrétiens réellement sauvés pourraient être découragés de voir certains qui ont fait un premier pas, mais qui retournent vers le confort, puisque persécutés, même ayant fait un premier pas en dehors de la synagogue, par la famille, par tout simplement la tradition juive. Il y avait beaucoup de pression à cette époque-là, comme aujourd'hui d'ailleurs. Quand l'Église ou les chrétiens sont persécutés, il y a toutes sortes de pressions qui viennent de toutes parts. Il y a les pressions sociales, économiques. On sait que quand dans certains pays on dit qu'on est chrétien, ben tout simplement on ne vous embauche pas au travail. La pression familiale, c'est certainement une des choses les plus difficiles. Je me souviens quand j'ai accepté le Seigneur et que ma famille, sans se rendre compte, a commencé à me persécuter parce que persuadée que j'appartenais à une secte. Et quand vos bien-aimés, les êtres les plus chers que vous avez au monde, commencent à s'opposer à vous, sans comprendre réellement ce qui est votre motivation et votre foi, c'est quelque chose de difficile à vivre. Parce qu'il y a un désir chez eux de ne pas perdre le membre de la famille qui tout d'un coup a d'autres valeurs que les leurs. Et donc il y a une pression psychologique et Et donc, une tendance à ce que le croyant, finalement, perde sa foi, et le jeune croyant, peut-être un peu fragile, ébranlé, puisse retourner à ce qu'il avait abandonné. Alors, la question, lorsqu'on est éprouvé ou persécuté, c'est toujours, mais Seigneur, où es-tu ? Je me souviens, quand j'étais jeune croyant, que je commençais à témoigner, ici à droite, et certainement, vous avez vécu cela, et tout d'un coup, d'avoir l'opposition, mais je comprenais pas. Moi, j'étais tout joyeux, j'étais sûr de mon salut, le Seigneur m'avait transformé, j'avais une nouvelle vie, une nouvelle espérance, et je comprenais pas que les gens à qui je m'adressais ne partagent pas, tout d'un coup, la même foi, ils ne découvrent pas ce que Dieu avait permis que je découvre. Donc, il y a une opposition lorsqu'on se convertit, il y a une opposition qui vient de toutes parts, et donc, qui peut décourager le croyant. Et le but de l'Épître aux Hébreux, justement, c'est d'encourager la foi de ces croyants qui sont éprouvés, persécutés à cause de leur foi. Et la grande question qui se pose lorsqu'on se convertit au Seigneur, mais pourquoi, Seigneur, permets-tu cela ? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle opposition ? Pourquoi y a-t-il de la résistance ? Alors que tu me remplis d'amour, tout d'un coup, parce que je témoigne, je découvre qu'il y a de la haine contre toi et donc contre moi. S'ils m'ont haï, sachez qu'ils vous haïront aussi, a dit Jésus-Christ. Alors comment faire le lien, certainement, si vous avez lu avec moi le passage à partir de verset 4, comment faire le lien entre ce qui précède, qui est la course du croyant qu'on a développée largement ensemble, écoutez les messages qui sont enregistrés d'ailleurs à votre disposition sur le site, n'est-ce pas ? Si vous les avez manqués, ben je pense que c'est une série qui nous encourage à courir. Mais en même temps, tout d'un coup, il y a un coin sombre. Vous savez, souvent, les ciels magnifiques ont quand même un rayon, mais ça peut arriver qu'il y ait des coins sombres dans le ciel. Et on se dit, pourquoi ? La vie chrétienne devrait être tellement belle. Ça devrait être le paradis sur terre, non ? On n'aime pas tellement les épreuves et on n'aime pas la souffrance. En tant que croyants, nous n'aimons pas souffrir, à moins d'être masochistes, ce qui n'est pas notre cas. Nous n'aimons pas souffrir et nous ne voulons pas souffrir et nous voulons rejeter tout ce qui nous fait souffrir. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ici à la fin du chapitre 11, lorsqu'il décrit tous ceux qui ont vécu par la foi, qui sont des modèles à suivre, termine au chapitre 11 par des gens qui, à cause de leur foi, ont souffert jusqu'à la mort de martyrs. Ils ont été sciés, torturés, ils sont morts à cause de leur foi. Et j'allais dire Paul, excusez, on a tendance à penser parfois que c'est Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après avoir décrit cette nuée de témoins, n'est-ce pas, de héros de la foi qui sont là pour nous encourager, il manque le modèle parfait, c'est Jésus. Et il compare la vie chrétienne à une course. Nous courons, mais il faut rejeter ce qui nous alourdit pour être le plus allégé possible, pour courir, mais les yeux fixés sur Jésus, le modèle parfait. On peut être déçu des autres, mais jamais de Jésus. Donc c'est lui le modèle parfait. Le modèle parfait qui a enduré la souffrance de la croix. Et l'auteur revient à cette idée. Votre foi va vous amener à souffrir. Nous n'aimons pas, lorsque nous parlons de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle, dire à ceux qu'on essaie d'amener au Seigneur, vous savez, si vous allez croire, vous allez souffrir. Mais quelque part, c'est la vérité. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive, n'est-ce pas, et qu'il renonce à lui-même. Il y a une souffrance qui est attachée à la vie chrétienne. Vous êtes d'accord avec moi ? Et c'est pas facile cela, parce qu'on aimerait tellement déjà être au ciel, n'est-ce pas ? Et être toujours rempli de la présence de Dieu, de tout ce qui est parfait, mais sans connaître et vivre, expérimenter la souffrance. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, maintenant, va vers le thème de la souffrance. Pourquoi le chrétien souffre-t-il ? Jésus a souffert, c'est un exemple parfait. Et donc, tout simplement, il veut dire, ne vous étonnez pas que vous ayez à souffrir à cause de votre foi. Ne vous en étonnez pas, ne trouvez pas cela étrange, ne vous découragez pas, sachez que c'est normal que vous souffriez, même lorsque vous vivez dans la foi et dans la justice de Dieu. Donc ne soyons pas étonnés que Dieu permet des souffrances dans nos vies. La souffrance, il y a différentes sortes de souffrances, n'est-ce pas ? Mais Dieu veut qu'on se fortifie malgré nos souffrances. Et alors, il donne un verset clé ici, du verset 4 à 11, de même qu'il y avait un impératif courant avec persévérance et puis considéré, il y a un impératif clé ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, il dit « supporter le châtiment ». Supporter le châtiment. Et puis dans les versets suivants, qu'on n'aura pas l'occasion de regarder ce matin, mais il est dit au verset 12 « Fortifiez donc vos mains languissantes ». Impératif. Verset 13 « Et suivez avec vos pieds des voies droites ». Et puis verset 14 « Recherchez la paix avec tous ». Et verset 15 « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». Il y a toutes sortes d'exhortations et d'impératifs ou de participes présents qui sont là pour nous encourager. Mais il n'empêche pas moins qu'on a beau contourner, regarder, examiner, en examinant le passage verset 4 à 11, on ne peut pas contourner le fait que le thème du verset 4 à 11, c'est le châtiment de Dieu dans nos vies. Alors peut-être vous n'aimez pas ce mot, n'est-ce pas, qui est une traduction d'un verbe grec, on en viendra dans un instant dans l'explication de ce que ça veut dire, mais je vous invite à relire avec moi le texte à partir du verset 4, sauf que, si vous me permettez, je vais le lire dans la version dite Darby, n'est-ce pas, qui est plus littérale, et vous allez voir que le mot « châtiment » est traduit d'une autre façon. Vous êtes prêts? On y va? Verset 4. C'est bon? Vous êtes avec moi toujours? Ok, on y va. Lisez en même temps que je lis pour comparer votre texte avec celui de Darby, qui est une traduction plus littérale. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur. Quel est le mot ici qui a été traduit? Discipline, à la place de châtiment. Et ne perds pas courage quand tu es repris par lui, car celui que le Seigneur aime, il le discipline, il fouette tout fils qu'il agrée. Un mot très fort, cela. Vous endurez, entre parenthèses, des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils, car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus tôt soumis au Père des esprits et nous vivrons? Car cela, discipliné pendant peu de jours, selon qu'il le trouvait bon, mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Donc, Darby a traduit par le mot « discipline ». Alors, si vous voulez bien tourner l'ordinateur, nous allons regarder ensemble le sujet ce matin du châtiment de Dieu. Je crois que la question, puisque le mot clé ici, l'impératif clé qu'on trouve au verset 7, c'est supporter le châtiment. La question que le Seigneur nous laisse ce matin est la suivante. Est-ce que nous supportons le châtiment de Dieu? Ça veut dire, est-ce que nous reconnaissons le châtiment de Dieu dans notre vie? Comment réagissons-nous face au châtiment de Dieu? C'est une bonne question quand même. Donc il faut comprendre ce qu'est le châtiment et comment Dieu l'exerce dans notre vie et la raison pour laquelle il exerce cette discipline ou châtiment. On va regarder ça plus en détail et je ne sais pas si on pourra aller jusqu'au bout de la réflexion ce matin. Le châtiment de Dieu. Alors, qui, pourquoi, comment? On va essayer de répondre à ces questions. Le châtiment de Dieu, on a déjà vu l'introduction et on pourrait se poser, mais quels sont les buts du châtiment? Qui châtie? Qui est châtié? Comment Dieu châtie-t-il? Pourquoi? Comment réagir face au châtiment? Quels sont les fruits du châtiment? En fait, on trouve tout cela dans le texte. Alors, on pourrait regarder verset après verset, garder la structure grammaticale du texte et développer chaque idée qui est dans le verset. Mais ce matin, on va le regarder sous forme de thème, sous forme de réponse à ces questions qui sont répondues dans le texte ici. Mais avant, nous allons essayer de comprendre quels sont les buts du châtiment. Ce n'est pas, il y a des raisons ici, on va les regarder ensemble, mais essayons de comprendre le châtiment de Dieu ou on va dire la discipline que Dieu exerce pour nous, ses enfants. Alors, regardons le mot-clé ici. Le mot-clé, c'est châtiment. Ça se trouve 4 fois. Châtier, le verbe, 5 fois. C'est vraiment le mot-clé du passage. C'est vraiment le thème ce matin que Dieu place devant nous, qui est le châtiment de Dieu ou la discipline de Dieu dans nos vies. En fait, le mot grec, les deux mots grecs, viennent du mot païs aussi, qui veut dire enfant, et désigne en fait l'éducation d'un enfant. Alors, la notion associée à ce terme est large, j'ai lu ça dans un commentaire, car il désigne tout ce que parents et enseignants font pour former, châtier, cultiver et instruire les enfants afin de les aider à bien se développer et à atteindre la maturité. Il est utilisé donc 9 fois dans les 8 versets qu'on a regardés ici. Autrement dit, il y a un but pédagogique à ce que le Seigneur intervienne dans nos vies par sa discipline. J'ai hésité à mettre la photo, je ne sais pas si vous avez regardé, on va aller précédemment, je pense si on peut y arriver, Christina. J'ai hésité à mettre cette photo, n'est-ce pas, d'un père qui châtie son enfant. D'abord, aujourd'hui, c'est pas populaire. Et si on vous prend en train de discipliner physiquement votre enfant, il se peut que l'enfant porte plainte ou que les voisins portent plainte et que vous ayez des troubles avec la justice. Il n'empêche pas moins que le châtiment physique est largement développé, notamment dans le livre des Proverbes de l'Ancien Testament. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu veut. On a déjà parlé de ça, il me semble, quelquefois, au sujet de ce qu'est la discipline que devraient exercer les parents envers leurs enfants. Toujours avec amour, alors très résumé, toujours avec amour, dans un cadre de maîtrise, n'est-ce pas, de la part des parents, et dans le but de faire du bien à l'enfant pour l'aider à changer de comportement par la souffrance. Ce qui est le plan de Dieu, surtout dans un jeune âge. Quelqu'un a dit que 90% de la discipline physique se fait entre 0 et 6 ans. Donc tout ça pour cadrer. Alors j'ai hésité à mettre cette photo, même si dans le passage ici, Dieu nous châtie comme un père châtie son enfant, parce qu'il ne faudrait pas penser que le châtiment de Dieu est uniquement physique, que Dieu châtie ses enfants par la douleur physique. Ce serait faux cela, n'est-ce pas? Mais vous avez compris l'image, parce qu'elle est dans le texte ici, comme un père châtie ses enfants, Dieu veut nous châtier, mais c'est beaucoup plus large que l'idée du châtiment physique. D'accord? Même si elle est nécessaire. Si vous avez des enfants, j'espère que vous avez découvert cela comme une grande vérité d'éducation. En fait, il y a 3 façons de voir le châtiment de Dieu. C'est une introduction que je vous donne à l'instant. Premièrement, mais je vais dire quelque chose avant. Si vous me permettez, j'allais l'oublier. Le châtiment de Dieu n'est pas un jugement de Dieu. Il y a une différence lorsque Dieu châtie ses enfants et lorsque Dieu juge le monde. Dieu juge le monde pour le condamner, n'est-ce pas? Tandis que Dieu juge les enfants de Dieu pour les redresser, pour les corriger, pour les châtier, pour les discipliner. Il y a un but d'amour, de motivation d'amour de la part d'un père d'amour pour redresser les enfants. Alors la première chose, il y a 3, je vais vous le montrer ici clairement. Il y a en fait la punition, la prévention et l'instruction. Exactement ce que Dieu nous demande de faire envers nos enfants. Est-ce que la punition est nécessaire? Bien sûr que oui. Pourquoi est-ce que Dieu nous punit? Parce que nous sommes des enfants de Dieu encore pécheurs. Et que le péché a besoin d'être corrigé. De même qu'un père corrige un enfant qui est en danger d'un mauvais comportement pour le redresser, Dieu nous redresse parce que nous méritons d'être redressés. Et c'est la preuve de son amour envers nous pour nous redresser lorsque nous nous égarons. Plaçons vraiment ce cadre, n'est-ce pas, que Dieu est amour. Je vais vous donner un exemple. David, dans l'Ancien Testament, était un roi comme beaucoup d'autres rois. Sauf que David, un jour, il a regardé une jolie femme, puis il a voulu commettre l'adultère avec elle. Alors il s'est arrangé pour le faire. Et puis finalement, il a même fait tuer le mari de Bathsheba. Ça, c'est un péché, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Mais Dieu a châtié David. Et comment l'a-t-il châtié? Il l'a châtié intérieurement. Il a privé David d'un fils qui était né de cette femme. Et David a dû subir toutes sortes de rébellions de la part de ses enfants, du trouble dans son royaume. Et David, bon roi qu'il était, un homme selon le cœur de Dieu, a subi la main correctrice de Dieu. Et quand Nathan est venu, n'est-ce pas, le visiter, il était lui de façon entière en train de dire oui, alors que cet homme qui avait pris la meilleure brebis, n'est-ce pas, d'un propriétaire, il dit cet homme mérite la mort. Et Nathan l'a regardé, mais toi tu es cet homme. Donc voyez-vous, Dieu convainc de péché même l'enfant de Dieu lorsqu'il tombe. Et David a subi une punition très sévère de la part de Dieu le Père. Parce qu'il n'était pas un roi comme les autres, il était un roi d'Israël qui connaissait Dieu comme son berger, comme son père. Ta houlette et ton bâton me rassurent, mais la houlette et le bâton, c'est pour redresser, c'est pour protéger, c'est pour diriger, c'est pour guider. Et donc il y a un redressement que Dieu veut exercer dans la vie de ses enfants. Vous me suivez avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, alors je regrette, mais vous n'êtes pas d'accord avec la parole de Dieu. Un autre exemple, les Corinthiens. Ah, ils aimaient faire la fête. Mais l'épître aux Corinthiens nous démontre des chrétiens qui étaient très charnels, qui avaient toutes sortes de problèmes de théologie, de compréhension de la vie chrétienne, de comportement. Il y avait l'inceste dans l'église, imaginez. Et le jour de la table du Seigneur, le moment de la table du Seigneur est confondé, repas agapé, table du Seigneur. Il y a ceux qui s'empiffraient, qui avaient beaucoup de nourriture, il y en a d'autres qui n'avaient pas, puis se disaient chrétiens, frères et sœurs. Il y en avait même qui s'enivraient. Et Dieu dit, à un moment donné, au travers de Paul, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup qui sont morts et qui sont malades. Dieu a jugé son Église par une punition telle pour faire comprendre aux Corinthiens que leur comportement collectif en tant qu'Église n'était pas du tout le reflet de la présence sainte de Jésus-Christ. Et Dieu les a châtiés physiquement par la maladie ou par la mort. Dieu peut enlever la mort à ses enfants, la vie, excusez, par la mort à ses enfants. La preuve. Vous avez lu Acte 5 ? Je ne sais pas vous, mais la première fois où j'ai lu Acte 5, j'ai tremblé. Parce qu'il y avait ceux qui donnaient la valeur de leur champ, n'est-ce pas, de leur bien pour aider les pauvres, avec un cœur pur devant Dieu, et ceux qui ont joué la comédie, qui ont fait croire que oui, ils avaient tout vendu, tout donné. Ils auraient pu ne pas tout vendre, ils auraient pu tout vendre et garder une partie, sans prétendre qu'ils avaient tout donné. Ils ont menti. La Bible dit qu'Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Imaginez Pierre qui voit Ananias, Saphira, et qui les voit périr comme ça parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. On appelle ça un châtiment exemplaire. Dieu a voulu châtier des gens qui se prétendaient spirituels, qui ne vivaient pas vraiment l'esprit de réveil de l'Église primitive, qui ont menti au Saint-Esprit comme un exemple à ne pas suivre. C'était l'avenir de l'Église qui était en jeu. Peut-on être hypocrite et jouer au spirituel lorsqu'on ne l'est pas et faire mentir l'Église et finalement instaurer l'hypocrisie dans l'Église? Dieu a dit non ce jour-là. Et Dieu a châtié Ananias et Saphira. Donc Dieu punit le péché. Mais quand Dieu châtie, il ne rejette pas toujours. La Bible dit ceci, je vous le lis. « Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, il parle des fils du roi, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par dégoût leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. » Dans la punition et la correction, Dieu garde son alliance avec nous, ses enfants. Et c'est merveilleux cela. Quelles seraient les limites sinon? On serait toujours châtié, n'est-ce pas? Et on ne bénéficierait pas de la bonté et de la grâce de Dieu. Alors ça, c'est le premier aspect du châtiment, c'est la punition. Avez-vous accepté dans votre vie que Dieu a le droit de vous punir? Est-ce que vos enfants acceptent que vous les punissiez lorsqu'ils sont répréhensibles? Certainement que oui, et certainement vous voulez les redresser. De la même façon, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons accepter que Dieu nous corrige par la punition, par la correction. Le deuxième aspect du châtiment que l'on trouve dans la Bible, c'est la prévention. Dieu châtie parfois pour prévenir le péché. Nous avons tendance, n'est-ce pas, à vouloir pécher. Et il vaut mieux, avant de pécher et tomber, que Dieu nous tape un petit peu sur les doigts, que de faire le péché et de subir les conséquences du péché, qui seront plus graves, n'est-ce pas, que la prévention de Dieu. Donc Dieu punit le péché, mais ici il essaie de prévenir le péché dans nos vies, et pour cela il nous corrige. C'est lui qui parfois ferme et ouvre des portes. C'est lui qui reste souverain dans nos vies. Et heureusement que la grâce de Dieu est là, et que parfois il prévient le péché par une correction, n'est-ce pas, qui nous empêche de pécher. D'ailleurs, les parents qui aiment leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils préviennent leurs enfants de sortes de dangers, mais pas la main dans le feu. Ne va pas autour de la piscine si tu ne sais pas encore nager, tu pourrais te noyer. Ne traverse pas la route sans regarder à droite, à gauche avant de traverser. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? S'il est sage et intelligent et obéissant, il va accepter cela parce que c'est pour son bien. Mais un enfant qui se rébelle, dit « non, je veux toucher le feu, je ne veux pas aller à la piscine, peu importe, je ne sais pas nager, je me révolte contre mes parents, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais il va subir les conséquences. Et nous n'aimons, l'enfant parfois n'aime même pas ce cadre-là. Mais nous, c'est pareil, les enfants de Dieu. Dieu nous met des limites. Et dans ces limites, elles sont données pour que justement nous soyons dans un cadre afin de ne pas pécher contre Dieu. Je vais juste vous donner un exemple, c'est le cas de l'apôtre Paul. Le cas de l'apôtre Paul est assez extraordinaire, n'est-ce pas? C'est un homme qui a été beaucoup persécuté à cause de sa foi. Mais c'est un homme qui a vécu des miracles extraordinaires. Et puis il raconte toute une liste, n'est-ce pas, de son CV, parce qu'il défend son ministère. Il raconte comment il a été persécuté, comment il a été battu X fois, 40 coups moins 1, etc., parce que c'était le châtiment mortel, 40 coups, etc. Paul a subi toutes sortes de souffrances dans sa vie. Et un jour, il dit au Seigneur, « Enlève cet écharpe de ma chair. » On ne sait pas si c'est un problème de maladie aux yeux, si ce sont des anges, comme il dit, si c'est des gens qui s'opposaient à lui. Mais Paul a crié à Dieu, un homme de prière, qui a été exaucé maintes fois, dit « Seigneur, s'il est possible, enlève cet écharpe de ma vie. » Et le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit. » Et Paul a compris, après avoir prié trois fois, ceci. Il a compris qu'après avoir subi toutes ces souffrances, avoir vu les miracles extraordinaires de Dieu, avoir été ravi au troisième ciel, n'est-ce pas? Lui a visité le paradis, c'est extraordinaire. Moi je pense que si je visitais le paradis, si Dieu me permettait d'aller au paradis, je reviendrais ici à l'église complètement transformé. Et chacun de vous aussi, n'est-ce pas? Parce que voir Jésus, voir le paradis, ça doit marquer tellement l'esprit qu'on doit être un homme complètement transformé le jour où on revient du ciel sur terre. Et Paul a dû subir cette faiblesse dans sa vie, et il dit, afin de m'empêcher de me glorifier. Dieu nous prévient du péché, par exemple, de l'orgueil. L'orgueil, n'est-ce pas, est quelque chose de terrible, dont Dieu permet des épreuves dans nos vies, des maladies, des échecs, d'autres problèmes, parce que ce sont des façons avec lesquelles Dieu nous protège des choses peut-être bien pires. Dieu a fermé des portes dans nos vies, pour nous empêcher de pécher, et par cette correction préventive, n'est-ce pas, amener à nous des sujets de joie et de reconnaissance qui nous a gardés de tomber dans le péché. Amen. Dieu est un Père d'amour, il nous punit, mais aussi il prévient le péché dans nos vies par la correction. Et le troisième aspect, c'est l'instruction. Dieu peut nous punir et peut nous prévenir, mais il y a parfois des châtiments ou des épreuves que Dieu permet dans nos vies pour nous instruire au sujet de qui il est. Nous sommes limités, nous avons une compréhension extrêmement limitée de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle, je vous le recommande fortement, de Packer, qui s'appelle « Connaître Dieu ». Nous croyons connaître Dieu. Nous croyons connaître la Bible. Comme a dit quelqu'un après ça, il avait un certain âge dans sa vie, il a dit, j'ai lu plus de 60 fois la Bible, il a dit, je ne suis arrivé qu'au bord d'un océan. Plus on lit la Bible, plus on s'aperçoit qu'on a besoin de connaître, et de connaître qui est Dieu. On prétend connaître Dieu, son caractère, sa vie. On a souvent une image de Dieu que soi-même, n'est-ce pas, on essaie de faire parce que ça nous arrange. Mais qui est Dieu vraiment? Est-ce qu'on connaît Dieu? Alors Dieu nous instruit parfois par des épreuves, pour nous permettre de connaître qui Dieu. Il nous éprouve, il nous fait confronter à nos limites. Et l'exemple que j'ai choisi, c'est l'exemple de Job. Un homme que la Bible dit être intègre et droit, qui craignait Dieu, se détournait du mal. Et la Bible dit même qu'il a supporté toutes ses souffrances sans péché, parce qu'il est écrit en Job 2:10, Job ne pécha point par ses lèvres. Mais il n'empêche pas moins que Job, durant tout son livre, dit « Pourquoi Seigneur ?» Ça vous est jamais arrivé ? Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et vous avez tendance à dire, comme moi, dans l'épreuve, « Pourquoi Seigneur ?» Je ne comprends pas, je veux rationaliser, je veux comprendre la façon avec laquelle Dieu agit dans ma vie, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Et c'est ce qu'a vécu Job pendant des mois, n'est-ce pas ? Il a voulu comprendre ce que Dieu est en train de faire. Il n'a pas dit « j'ai péché, c'est pour ça que Dieu me châtie ». Ce sont les autres, ses faux amis, qui ont expliqué à Job « voilà, tu souffres parce que tu as péché, tu souffres parce que Dieu te sanctifie ». Ce n'était pas ça. Il n'y a qu'un ami qui a entrevu un petit peu la vérité, jusqu'à ce que Dieu parle par deux longs discours à Job. Mais il a fallu combien de chapitres ? Je ne sais plus, c'est 34 ou 35 chapitres avant d'arriver à l'explication de Dieu lui-même. Et alors, Job s'est repenti, parce qu'il a découvert Dieu sous un aspect qu'il n'avait jamais pensé. Sa sagesse ne pouvait pas expliquer la sagesse de Dieu dans le fait que Dieu avait permis que Satan touche à sa vie et à son corps. Il dit ceci, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Reconnaissons que dans les épreuves de la vie, il y a un moment donné où Dieu, heureusement, se manifeste comme il ne s'est jamais manifesté. C'est parfois dans les moments les plus difficiles où la foi s'exerce afin de découvrir Dieu, de s'attacher à Dieu dans un aspect, une perspective, une connaissance de Dieu qu'on n'a jamais vécu auparavant. Vous le reconnaissez cela, frères et sœurs ? Alors les épreuves nous amènent à découvrir Dieu, son secours, j'ai marqué, sa grâce, sa miséricorde, sa puissance, sa délivrance. Je me souviens quand j'avais l'âge de 19 ans, j'ai perdu ma maman d'un accident, elle s'est endormie au volant de sa voiture. Et ça a été terrible, mes parents étaient beaucoup, puis ils s'aimaient beaucoup, il y avait une unité familiale, on était heureux en famille, et là tout d'un coup, l'âme du foyer disparaissait dans un accident tellement bête, n'est-ce pas ? Et c'était terrible. Mais après, quand j'ai rencontré d'autres jeunes qui avaient perdu leur père ou leur mère, j'avais une compassion, parce que moi-même j'avais souffert dû à la disparition de ma chère maman. Il y a des épreuves de la vie où Dieu nous console et par cette consolation, nous sommes appelés à consoler les autres. Et c'est une grâce de la part de Dieu. Il y a parfois des épreuves dans notre vie que Dieu permet et qui sont le chef-d'œuvre de Dieu, même si nous ne comprenons pas. Et sa main est parfois difficile, n'est-ce pas, à comprendre ses desseins. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons croire que Dieu nous aime. Parce qu'il est un père d'amour, il permet des épreuves, Dieu ne fait jamais le mal dans notre vie. Comprenons cela, Dieu ne conçoit jamais le mal pour nous, ses enfants. Dieu a une alliance avec nous qui est une alliance d'amour. Et dans cet amour, il permet des épreuves, mais pour nous façonner à l'image de son Fils Jésus-Christ. La leçon est dure, mais la leçon est glorieuse. C'est le chemin royal pour entrer au ciel et rencontrer Jésus face à face, celui qui a tant souffert pour nous. Je ne sais pas si vous pouvez encore écouter pas mal de temps, mais je vais juste peut-être terminer un autre point, puis on continuera parce que j'ai tout un développement à faire qui serait trop long, je pense, encore. Donc je vais être raisonnable. Je ne vais pas vous châtier d'un long discours. Mais qui châtie ? On va répondre à la première question. Donc, on a vu que Dieu punit, que Dieu prévient, que Dieu instruit. Vous pouvez retenir cela ? On va regarder maintenant, mais qui châtie ? Bon, je l'ai mis à l'envers, qui est châtie, on le verra un autre jour. De même que Dieu nous demande de corriger nos enfants, Dieu corrige, nous corrige comme un père. J'aimerais vous lire quelques versets. D'accord ? Vous êtes prêts ? Proverbe, alors oubliez ça parce que c'est pas le... Je sais pas si... Je peux mettre à la... qui châtie ? Voilà. C'est Dieu. mais un Dieu d'amour. C'est ce que nous allons regarder à l'instant. Donc, je souligne encore une fois, de même que Dieu nous demande de corriger nos enfants, Dieu nous corrige comme un père. Proverbe 13, 24. Proverbe 13, 24. Il est écrit « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » L'amour pousse à corriger, à redresser, à instruire, à exhorter. C'est le vrai, c'est la vraie motivation du châtiment ou de la discipline. Proverbe 22, verset 15. « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » Les bienfaits de la correction, c'est d'éloigner même la folie du cœur de l'enfant. Vous n'avez jamais été dans un foyer où l'enfant est roi, centre de tout, et les parents subissent non seulement les caprices, mais ils acceptent les caprices, ils comblent les caprices de l'enfant. Je connais une famille proche de chez nous, dans notre petit village. Alors, il y a une petite fille, et quand elle va chez son père ou chez l'oncle et la tante, alors on lui sert à manger. Elle dit « j'aime pas ». Bon, elle n'aime pas. Alors, qu'est-ce que tu veux manger ? Ah, je voudrais manger ça. Donc, le papa ou l'oncle, la tante revient à la cuisine faire un autre plat. Et c'est arrivé. Ah non, j'ai changé d'avis, je veux autre chose. Mais Dieu, heureusement, n'agit pas comme ça avec nous. S'il nous livrait à nos caprices. D'ailleurs, notre frère, mardi soir, a médité sur le Notre Père. Hein, ne nous induit pas en tentation. Ça veut dire, ne nous livre pas, délivre-nous du malin. Dieu, à un moment donné, lorsqu'il voit que le croyant se livre à la tentation, mais il le laisse aller. Ne nous induit pas, c'est-à-dire Dieu même peut pousser le croyant jusqu'au bout de son péché pour en goûter l'amertume et se repentir, et même le livrer au malin. Donc nous, qu'est-ce qu'on crie au Seigneur ? Ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du malin, parce qu'on peut dépasser des limites, n'est-ce pas ? Et quand on dépasse les limites, eh bien, Dieu peut nous faire comprendre, eh bien, tu veux ce chemin ? Vas-y. Dieu peut respecter nos caprices, mais c'est dangereux de vivre dans le caprice. Un enfant qui est laissé à ses caprices fait horreur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans votre vie, mais les enfants livrés à eux-mêmes font déshonneur à leur père et leur mère, dit la Bible, font horreur. Et la folie est attachée à leur cœur. Des larmes de crocodile, des larmes de caprice, des larmes de manipulation. Et finalement, les parents sont manipulés, les parents laissent faire, et ce sont des mauvais parents. Parce que aimer son enfant, c'est le corriger. C'est aimer la vérité et c'est lié à la sainteté de Dieu. En tant que parents, nous voulons avoir, vivre un Dieu saint. Et dans la sainteté de Dieu, il y a la correction. Et si nous aimons nos enfants, nous voulons qu'ils soient saints. Comme Dieu nous ordonne, soyez saints, je suis saint, soyez saints. Donc la folie est attachée au cœur de l'enfant, une bonne raison. Et dans nos vies, est-ce qu'il n'y a pas un peu de folie des fois, en tant que croyant ? Vous n'avez jamais été redressé par Dieu et parfois la leçon est difficile, n'est-ce pas ? Mais on a besoin de cela, parce qu'on peut s'égarer. Proverbe 23, 14. « En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » Qu'est-ce que ça veut dire, cela ? Ça veut dire que la correction dans la vie de l'enfant amène l'idée d'une certaine moralité et connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont aucune notion du bien et du mal. On les appelle parfois même les délinquants. Et c'est prouvé dans un livre, n'est-ce pas, bien connu, que la délinquance est proportionnelle au manque de discipline qu'ont eu les enfants à la maison. La délinquance vient directement d'un manque de discipline qu'il y a eu à la maison envers des enfants qui ont été livrés à eux-mêmes, et souvent par manque d'amour, n'est-ce pas ? Maintenant, le cœur de l'homme est rebelle par nature, mais la correction le redresse. Tu délivres son âme du séjour des morts. Un enfant corrigé dès un jeune âge dans le respect des choses de Dieu aura plus de possibilités à se tourner vers Dieu pour être sauvé et devenir un enfant de Dieu. Proverbe 29, verset 17. Châtie ton fils, il te donnera du repos, il procurera des délices à ton âme. On veut plaire à Dieu, un enfant qui va procurer des délices à l'âme de ses parents, c'est un enfant obéissant. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui dit, « Oh, vous savez, les enfants bien éduqués, ce sont les enfants qui foutent la paix à leurs parents. » Alors, c'est pas tout à fait biblique en disant ça, n'est-ce pas? Mais quelque part, il y a tellement, c'est tellement beau, je dis carrément beau, de voir un enfant qui se soumet à ses parents. L'obéissance, moi, je trouve que c'est de toute beauté dans la vie de cœur d'un enfant et aussi des adultes. On commencera d'ailleurs en septembre l'épître aux Éphésiens avec le verset « Vous soumettant les uns aux autres », qui est le fruit de la plénitude du Saint-Esprit. Un enfant doit être amené à être corrigé et puis à être redressé pour sauver son âme. Et puis, Deutéronome 8, verset 5, il est écrit, c'est Dieu qui parle, « Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Hein? » Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Alors, c'est la preuve, si nous sommes disciplinés par Dieu, que Dieu nous aime. Dieu ne veut pas nous livrer à nous-mêmes. Il est même très jaloux du Saint-Esprit qui nous a été donné et qui nous a scellés. Et parce qu'il nous aime, il a droit sur nous. Parce qu'il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Il a un mot à dire dans notre vie, parce qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous, subissant une telle opposition de la part des pécheurs. Alors j'aimerais conclure en disant cela. La première chose à laquelle nous devrions penser lorsque nous souffrons, c'est que Dieu n'a pas cessé de nous aimer. Dieu est amour. Me souviens, jeune croyant, dans l'épreuve, j'ai entendu un ancien, un vieux croyant aux cheveux blancs, hein, qui a dit ceci à quelqu'un d'autre. Il ne s'adressait pas à moi. Il ne faut pas oublier que Dieu nous aime. Et c'était exactement la parole dont j'avais besoin. Dans l'épreuve, nous oublions, Satan nous fait croire que Dieu a cessé de nous aimer. Mais ce n'est pas vrai. Peu importe, et c'est facile à déclarer ça, mais c'est plus difficile à vivre, n'est-ce pas? Peu importe ce qui va nous arriver, n'oublions pas que Dieu est un Père d'amour qui nous aime. Et que Dieu châtie celui qu'il aime, donc il permet des épreuves dans notre vie. Et ce raisonnement n'est acceptable dans nos vies que par la foi. Dans le monde, nous nous rebellerions. Combien de gens se rebellent à la moindre épreuve, n'est-ce pas? Et crient injustice et veulent transformer le monde sans savoir que le premier problème, c'est eux-mêmes. Nous ne pouvons pas toujours comprendre et raisonner ce qui nous arrive. Il y a une incompréhension dans nos épreuves et nous pourrions discuter avec Dieu, questionner Dieu. Et même se rebeller, mais Dieu nous corrige à cause de son amour. Et cette compréhension du châtiment de Dieu qu'il exerce, elle n'est possible non pas par la logique, n'est-ce pas, du cœur humain naturel, mais par la foi qui est à cette logique. Nous sommes des enfants de Dieu. On va le dire au pronom personnel. Je suis un enfant de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Et Dieu, à cause de cet amour, de l'alliance qu'il a faite en Jésus-Christ envers moi, ne peut que m'aimer et chercher à me faire du bien. Par conséquent, ce que je reçois de la main de Dieu, y compris le châtiment, la discipline, vient de l'amour de Dieu. Plus qu'un tout Père terrestre, le Père céleste veut que ses enfants soient justes, il veut que je sois juste, il veut que je sois mûr, il veut que je sois obéissant, compétent, responsable, capable et confiant. Et quand nous acceptons que c'est Dieu qui permet ces épreuves, alors nous bénéficions de son châtiment pour nous faire croître jusqu'à ce qu'un jour nous paraissions ensemble dans le ciel. Et nous comprendrons la raison et les pourquoi. Mais déjà, nous avons une réponse. C'est que si Dieu le permet, c'est pour notre bien, parce qu'il nous aime. Prions. Notre Père Céleste, tu vois, tu as placé devant nous ce texte, et c'est vrai que ce n'est pas facile de l'aborder. Nous vivons des choses parfois difficiles et nous sommes écrasés par toutes sortes d'inquiétudes et de choses difficiles, mais Seigneur, tu es là et nous pouvons nous confier en toi, sachant que tu es souverain. Nous avons beaucoup de pourquoi dans nos vies, Mais Seigneur, toi, tu as les raisons. Parfois que tu communiques plus tard, ou simplement tu te révèles comme celui qui libère, celui qui aime, celui qui compatit avec celui qui souffre, celui qui est plein de miséricorde. Alors Seigneur, nous te bénissons parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Au nom de Christ. Amen.